André Ruiz pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le cours de notre série d'émissions sur Molière, deuxième saison, avec l'interview de notre grand homme revenu de l'au-delà en la personne de Philippe Merlan. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Et des extraits des pièces de l'auteur jouées par nos comédiennes et comédiens, Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous.
Muriel Murard. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Michel Lagouin. Bonjour Michel.
Bonjour tout le monde.
Et Pierre Rougeau. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous. Bonjour André.
Merci d'être avec nous. Reprenons donc notre interview avec Molière que nous avions quitté au moment où, avec sa troupe, ils investissent la salle du Petit Bourbon, mise à leur disposition par Monsieur, le frère du roi. Alors, Jean-Baptiste, au Petit Bourbon, vous avez rencontré des comédiens italiens.
Oui, bonjour. Monsieur, donc, nous avait offert une salle, oui. Et quelle salle, hein ? Au Petit Bourbon, lieu connu pour la création de grands spectacles à effets spéciaux, équipés des dernières technologies. L'équivalent du savoir-faire des studios Pixar à votre époque. Hein. Des chars volants, des décors enchanteurs, des ciels qui s'ouvrent, des changements de décors à vue, l'apparition du soleil et d'autres magies. Ce lieu était occupé par des comédiens italiens, une troupe bien connue des Parisiens. Ces comédiens avaient été invités par la grand-mère de Louis XIV, Marie de Médicis. Ces comédiens pratiquaient ce qu'on appelle la comédia dell'arte. Cascade et prouesses verbales. Cette organisation est pensée pour maximiser le rapport coût-bénéfice, puisqu'elle permet aux troupes de produire très rapidement de nouvelles pièces pour être jouées soir après soir. Alors un sujet, un canevas, et le tour est joué. Jouant en Italie, leur singularité était appréciée pour leur virtuosité technique et leur improvisation. En somme, tout ce que n'était pas le théâtre du Marais et de l'hôtel de Bourgogne. Tout comique qu'ils étaient, ils ne comptent pas laisser notre troupe à s'installer comme ça, ni profiter gratuitement de leur installation. Pour que nous puissions jouer les jours où les Italiens font relâche, nous débourserons à peu près 1500 livres. Le roi, d'ailleurs, remboursera la totalité. Le lieu est connu du public, l'offre était cohérente. Ma comédie L'étourdie était largement inspirée de la comédie italienne. Alors le retour à Paris était aussi un retour à la maison. On prend un logement collectif sur le quai de l'école, à 300 mètres là, du Petit Bourbon. Notre esprit entrepreneurial battait son plein. Il y a des publicités dans les bons lieux, distribution de billets gratuits, programme de fidélité, 10% sur les boissons. Hein.
Alors ce fut un nouveau départ.
Nouveau départ, oui, effectivement André. C'était le 3 novembre 1658, avec mes deux meilleures créations, L'étourdi et Le dépit amoureux. Alors ces deux pièces, n'ayant été jamais jouées à Paris, elles ont été perçues comme nouvelles. Ouais. La saison fut heureuse et se terminait bien, avec des parts confortables pour chacun de nous. Nous avions présenté en 1655 L'étourdi ou Les contretemps à Lyon, et Le dépit amoureux à Béziers. C'était en 1656. La province m'inspirait. Elle m'a donné d'ailleurs croisé quelques types sociaux différents de ceux que j'avais connus à Paris. Alors les petites villes de province me permettaient d'observer, sous une loupe grossissante, les défauts et les ridicules de certains milieux. Alors je crois avoir épuisé dans mes comédies tout le ridicule des hommes. Ces 12 années passées sur les routes ont été très formatrices. Hein. Certains membres furent débauchés par l'hôtel du Marais. Ils reviendront par la suite. Enfin, d'autres partent pour lancer leurs propres affaires. On engage bien sûr de nouveaux comédiens, dont Jodelet, l'acteur comique vedette de l'ancienne troupe du Marais, et Lagrange, entre autres. Je vous parlerai de Jodelet plus tard. Hein. Quant à Lagrange, il va être très important et précieux pour notre troupe. Lagrange s'appelait Charles Varlet. Il nous rejoignit en 1659. Il tiendra d'ailleurs un document qui récapitulera jour après jour ce que nous avons joué. Combien les comédiens ont touché, ainsi que certains événements particuliers et dépenses extraordinaires.
Alors, faisons une petite pause pour écouter deux extraits de la pièce, Le dépit amoureux, dont Jean-Baptiste va nous reparler tout à l'heure. Le dépit amoureux est une comédie classique de Molière qui met en scène les tourments amoureux de deux couples. L'intrigue se déroule dans une petite ville de province où les amours contrariés et les quiproquos s'enchaînent. Deux jeunes gens, Éraste et Valère, courtisent la fille d'Albert. Lucille, dont le cœur penche vers Éraste, et ce dernier apprend de Mascari, le valet de son rival, que depuis 3 jours, Lucille et Valère se sont mariés. Dans sa fureur, Éraste charge Marinette, la servante de Lucille, d'annoncer à sa maîtresse que leur relation est finie. Gros René, le valet d'Éraste, se brouille également avec Marinette. S'ensuit ensuite un véritable dépit amoureux, mais c'est seulement à la fin que l'histoire est démêlée. Voici les scènes 3 et 4 de l'acte 4 avec Marinette, Lucille, Éraste et Gros René. Puis Marinette avec son Gros René. Alors Marinette, c'est Françoise, Lucille, Muriel, Michel fera Éraste et Pierre, Gros René.
Je l'aperçois encore, mais ne vous rendez point.
Ne me soupçonne pas d'être faible à ce point.
Il vient à nous.
Non, non. Ne croyez pas, madame, que je revienne encore vous parler de ma flamme. C'en est fait. Je me veux guérir et connais bien ce que de votre cœur a possédé le mien. Un courroux si constant pour l'ombre d'une offense m'a trop bien éclairé de votre indifférence. Et je dois vous montrer que les traits du mépris sont sensibles, surtout, au généreux esprit. Je l'avouerai, mes yeux observaient dans les vôtres des charmes qu'ils n'ont point trouvés dans tous les autres. Et le ravissement où j'étais de mes fers les aurait préférés à des sceptres offerts. Oui, mon amour pour vous, sans doute, était extrême. Je vivais tout en vous, et je l'avouerai même, peut-être qu'après tout j'aurai, quoique outragé, assez de peine encore à m'en voir dégager. Possible que, malgré la cure qu'elle essaie, mon âme saignera longtemps de cette plaie, et qu'affranchie d'un joug qui faisait tout mon bien, il faudra se résoudre à n'aimer jamais rien. Mais enfin, il n'importe. Et puisque votre haine chasse un cœur tant de fois que l'amour vous ramène, c'est la dernière fois, ici, des importunités que vous aurez jamais de mes voeux rebutés.
Vous pouvez faire au mien la grâce tout entière, monsieur, et m'épargner encore cette dernière.
Eh bien, madame, eh bien, ils seront satisfaits. Je romps avec vous et j'y romps pour jamais, puisque vous le voulez. Que je perde la vie lorsque de vous parler je reprendrai l'envie.
Tant mieux, c'est m'obliger.
Non, non, n'ayez pas peur que je fausse parole. Eussé-je un faible cœur jusqu'à n'en pouvoir effacer votre image? Croyez que vous n'aurez jamais cet avantage de me voir revenir.
Ce serait bien en vain.
Moi-même, de 100 coups, je percerais mon sein si j'avais jamais fait cette bassesse insigne de vous revoir après ce traitement indigne.
Soit, n'en parlons donc plus.
Oui, oui, n'en parlons plus. Et pour trancher ici tout propos superflu et vous donner, ingrate, une preuve certaine que je veux, sans retour, sortir de votre chaîne, je ne veux rien garder qui puisse retracer ce que de mon esprit il me faut effacer. Voici votre portrait. Il présente à la vue 100 charmes merveilleux dont vous êtes pourvus. Mais il cache sous eux 100 défauts aussi grands, et c'est un imposteur enfin que je vous rends.
Bon !
Et moi, pour vous suivre en dessein de tout rendre, voilà le diamant que vous m'aviez fait prendre.
Fort bien.
Il est encore à vous, ce bracelet.
Et cette agate à vous, qu'on fit mettre en cachet.
Vous m'aimez d'un amour extrême, Éraste, et de mon cœur voulez être éclairci. Si je n'aime Éraste de moi-même, au moins ai-je fort qu'Éraste m'aime ainsi. Vous m'assuriez par là d'agréer mon service. C'est une fausseté digne de ce supplice.
J'ignore le destin de mon amour ardente et jusqu'à quand je souffrirai, mais je sais, aux beautés charmantes, que toujours je vous aimerai. Voilà qui m'assurait à jamais de vos feux. Et la main et la lettre ont menti tous les deux.
Poussez !
Il est de vous, elle est de vous. Suffit, même fortune.
Ferme !
J'aurais regret d'en épargner aucune.
N'ayez pas le dernier.
Tenez bon jusqu'au bout.
Enfin, voilà le reste.
Et grâce au ciel, c'est tout. Que sois-je exterminé si je ne tiens parole ?
Me confonde le ciel si la mienne est frivole.
Adieu donc.
Adieu donc.
Oh, voilà qui va de mieux en mieux.
Vous triomphez.
Ah, allons, Ôtez-vous de ses yeux.
Retirez-vous après cet effort de courage.
Qu'attendez-vous encore?
Que faut-il davantage?
Ah, Lucille, Lucille, un cœur comme le mien se fera regretter. Et je le sais fort bien.
Eraste, Eraste, un cœur fait comme est fait le vôtre se peut facilement réparer par un autre.
Non, non. Cherchez partout, vous n'en aurez jamais de si passionné pour vous, je vous promets. Je ne dis pas cela pour vous rendre attendri. J'aurais tort d'en former encore quelque envie. Mes plus ardents respects n'ont pu vous obliger. Vous avez voulu rompre. Il n'y faut plus songer. Mais personne après moi, quoi qu'on vous fasse entendre, n'aura jamais pour vous de passion si tendre.
Quand on aime les gens, on les traite autrement. On fait de leur personne un meilleur jugement.
Quand on aime les gens, on peut, de jalousie, sur beaucoup d'apparences, avoir l'âme saisie. Mais alors qu'on les aime, on ne peut en effet se résoudre à les perdre. Et vous, vous l'avez fait.
La pure jalousie est plus respectueuse.
On voit d'un œil plus doux une offense amoureuse.
Non, votre cœur, Eraste, était mal enflammé.
Non, Lucille, jamais vous ne m'avez aimé.
Eh, je crois que cela faiblement vous soucie. Peut-être en serait-il beaucoup mieux pour ma vie si je... Mais laissons là ces discours superflus. Je ne dis point quelles sont mes pensées là-dessus.
Pourquoi?
Par la raison que nous rompons ensemble, et que cela n'est plus de raison, ça me semble.
Nous rompons?
Oui, vraiment. Quoi? N'est-ce pas fait?
Et vous voyez cela d'un esprit satisfait?
Comme vous.
Comme moi?
Sans doute. C'est faiblesse de voir aux gens que leur perte nous blesse.
Mais, cruel, c'est vous qui l'avez bien voulu.
Moi? Point du tout. C'est vous qui l'avez résolu.
Moi? Je vous ai cru à faire un plaisir extrême.
Vous avez voulu vous contenter vous-même.
Mais si mon cœur encore revoulait sa prison, si tout lâché qu'il est, il demandait pardon?
Non, non, n'en faites rien. Ma faiblesse est trop grande. J'aurais peur d'accorder trop tôt votre demande.
Ah, vous ne pouvez pas trop tôt me l'accorder, ni moi sur cette peur tôt le demander. Consentez-y, madame. Une flamme si belle doit, pour votre intérêt, demeurer immortelle. Je vous demande enfin, me l'accorderez-vous, ce pardon obligeant?
Revenez-moi chez nous.
Oh, lâche personne!
Oh, le faible courage!
J'en rougis de dépit.
J'en suis gonflé de rage. Ne t'imagine pas que je me rende ainsi.
Et ne pense pas, toi, trouver ta dupe aussi.
Viens! Viens frotter ton nez auprès de ma colère.
Tu nous prends pour un autre et tu n'as pas affaire à ma sotte maîtresse. Ardez, là, le beau museau, là, pour vous donner envie encore de sa peau. Moi, j'aurai de l'amour pour ta chienne de face. Moi, je te rechercherai. Ma foi, l'on t'en fricasse des filles comme nous.
Oui, tu le prends par là. Tiens, tiens, sans y chercher tant de façons. Voilà ton beau galant de neige avec ta non pareille. Il n'aura plus d'honneur d'être sur mon oreille.
Et toi, pour te montrer que tu m'es à mépris, voilà ton demi-cent d'épingles de Paris que tu me donnas hier avec tant de fanfare.
Tiens, encore ton couteau. La pièce est riche et rare. Il te coûta 6 blancs lorsque tu m'en fis don.
Tiens tes ciseaux avec ta chaîne de laiton.
J'oubliais d'avant-hier ton morceau de fromage. Tiens, je voudrais pouvoir rejeter le potage que tu me fis manger pour n'avoir rien à toi.
Je n'ai point maintenant de tes lettres sur moi, mais j'en ferai du feu jusqu'à la dernière.
Et des tiennes, tu sais ce que j'en ferais faire?
Prends garde à ne venir jamais me reprier.
Pour couper tout chemin à nous rapatrier, il faut rompre la paille. Une paille rompue rend, entre gens d'honneur, une affaire conclue. Ne fais point les 12 yeux, je veux être fâché.
Ne me lorgne point, toi, j'ai l'esprit trop touché.
Rompe, voilà le moyen de ne s'en plus dédire. Rompe, tu ris, bonne tête?
Oui, car tu me fais rire.
La peste soit ton riz, voilà tout mon courroux. Déjà dulcifié, qu'en dis-tu? Romprons-nous ou ne romprons-nous pas?
Vois.
Vois-toi-même.
Vois-toi-même.
Est-ce que tu consens que jamais je ne t'aime?
Moi? Ce que tu voudras.
Ce que tu voudras, toi, dis.
Je ne dirai rien.
Dis-moi non plus.
Ni moi.
Ma foi, nous ferons mieux de quitter la grimace. Touche, je te pardonne.
Et moi, je te fais grâce.
Mon Dieu, qu'à tes appâts je suis accoquiné.
Que Marinette est sotte après son gros René.
Au fil de l'intrigue, les quiproquos se multiplient, les personnages se retrouvent pris dans un véritable imbroglio amoureux. Les situations comiques s'enchaînent, les malentendus se dissipent et les vérités éclatent au grand jour. Le dépit amoureux est une comédie qui explore avec finesse les thèmes de l'amour contrarié, de la ruse et de la complicité. Molière y déploie tout son talent pour créer des personnages hauts en couleur et des dialogues savoureux. Cette pièce, empreinte de légèreté et d'humour, offre une réflexion sur les jeux de l'amour et sur les obstacles qui se dressent sur le chemin du bonheur. Mais reprenons le fil de notre dialogue avec Molière. Jean-Baptiste, vos pièces commencent alors à être jouées.
Oui, oui, la deuxième saison débute le 28 avril 1659. Alors, nous reprenons les pièces de l'illustre théâtre. La troupe joue des comédies. Elle triomphe également avec des tragédies, certaines anciennes comme celle du vieux Corneille, le Cid. Pourtant, la concurrence était rude avec l'Hôtel de Bourgogne, spécialiste du genre. Notre marque de fabrique était tout de même la comédie. Mon coup de force a été le dépit amoureux, oui. Je vous en reparle. Mais le sujet de cette pièce touchait une corde particulièrement sensible chez le public à cette époque. Dans la France du jeune Louis XIV, le leitmotiv de la cour, c'était amour, amour, amour. Enfin, l'un des genres poétiques était celui des élégies galantes, de longs poèmes où se racontaient les mouvements d'un cœur amoureux. On adorait les entendre parce que l'on pouvait s'identifier, on pleurait en les lisant ou en les écoutant. Alors, comme son titre l'indique, le dépit amoureux se construit entièrement autour de ces thématiques. Cette recette marche tellement bien que j'en fis ma marque de fabrique. Malgré le succès du dépit amoureux, cette saison fut morose. L'année précédente, nous avions joué au Louvre et au château de Vincennes, mais ce ne fut pas le cas pour notre deuxième saison. Et puis, l'investissement dont Jean Delay n'a pas payé. Vous voyez, cette vieille gloire n'a pas fait augmenter les rentrées d'argent. Et les pièces qui portaient son nom n'ont pas fait recette. Alors, il bénéficiait d'une gamme de comédies estampillées Jodelet, Jodelet astrologue, Jodelet souffleté, Jodelet ou le maître valet. Le public était allé longtemps à ces comédies pour le voir lui. En 1659, la mode semblait passer. Il nous manquait ce je ne sais quoi, un succès qui clouerait le bec à tout le monde et mettrait la troupe à l'honneur. Alors, en cette année, donc 1659, la concurrence faisait rage avec le Théâtre du Marais. J'avais peine à renouveler mon répertoire. Le Petit Bourbon était fréquenté par des gens de qualité qui ne venaient pas pour le divertissement, mais pour se faire voir. Vous voyez, 25 ans après l'échec de l'illustre théâtre, la compagnie risquait une nouvelle désaffection. Alors, nous présentons le 18 novembre de cette année, en seconde partie de spectacle, ma nouvelle pièce, Les Précieuses Ridicules. Un succès immédiat. Nous voulons la vedette à la pièce de première partie, une tragédie de Corneille, dont je ne me souviens plus du nom. Au public clairsemé succédera une foule qui remplira le Petit Bourbon soir après soir. Ne pas avoir vu Les Précieuses, c'était passer pour un ringard. Alors du jour au lendemain, les acteurs et actrices de la troupe ont gagné plus d'argent à une seule représentation qu'ils n'ont reçue jusqu'alors pour une semaine, voire un mois de travail. Alors, à titre de comparaison, un ouvrier qualifié gagnait maximum une livre par mois. Ils en gagnèrent 45 lors de la première.
Et quelle était votre recette?
Ah, vous me demandez la recette miracle. Bah alors, ce n'était pas l'intrigue. La recette, tout d'abord, le mot « précieuse ». Alors, c'était une insulte misogyne à cette époque. On traitait de précieuses les femmes qui réclamaient des droits fondamentaux, celui de ne plus être des objets, celui d'épouser un homme qu'elles estimaient et celui d'accéder à l'éducation et à la culture. Mes héroïnes employaient un langage complexe et métaphorique. Par exemple, pour un miroir, elles disaient « le conseiller des grâces ». Pour aimer, avoir un furieux tendre. Se mettre en colère, c'est pousser le dernier rude. Bon, je pourrais vous en citer bien plus encore, hein. Enfin, tous mes personnages faisaient allusion à des séries de romans récentes. Et enfin, un jeu d'acteur inédit, un jeu physique presque acrobatique, des postures, des expressions faciales, des situations. Bon, l'efficacité, comique d'intrigue couplée au comique de situation. Nous en avons fait d'ailleurs des envies, nous avons subi des critiques. Le succès, vous savez, André, suscite la jalousie.
Oh oui. Merci Jean-Baptiste, nous nous retrouverons lors de notre prochaine émission. Pour terminer, pour aujourd'hui, nos comédiens vont vous présenter deux extraits de la fameuse pièce « L'avare ». Il s'agit de la scène 3 de l'acte 1 entre Harpagon et La Flèche, le valet de son fils Cléante.
« Hors d'ici tout à l'heure, et qu'on ne réplique pas. Allons, que l'on détale de chez moi, maître juré filou, vrai gibier de potence !»«
Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard, et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. »
Tu murmures entre tes dents.
Pourquoi me chassez-vous?
C'est bien à toi, Pandare, à me demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme.
Mais qu'est-ce que je vous ai fait?
Tu m'as fait que je veux que tu sortes.
Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre.
Va-t'en l'attendre dans la rue. Et ne sois point dans ma maison, planté tout droit comme un piquet, à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévorent ce que je possède et furettent de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler.
Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit?
Je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Ne voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'ils n'aient soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché?
Vous avez de l'argent caché?
Non, coquin, je ne dis pas cela. J'enrage. Oh, je demande si malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai.
Et que nous importe que vous en ayez ou pas? Et c'est pour nous la même chose?
Tu fais le raisonneur. Je te baillerai de ce raisonnement ici par les oreilles. Sors d'ici, encore une fois.
Eh bien, je sors.
Attends. Ne m'emportes-tu rien?
Que vous emporterai-je?
Viens ça, que je vois. Montre-moi tes mains.
Les voilà.
Les autres.
Les autres?
Oui.
Les voilà.
N'as-tu rien mis ici dedans?
Voyez-vous-même.
Ces grands hauts de chausses sont propres à devenir les receleurs des choses qu'on dérobe. Et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un.
Ah, qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint et que je n'aurais de joie à le voler.
Hein?
Quoi?
Qu'est-ce que tu parles de voler?
Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé.
C'est ce que je veux faire.
La peste soit de l'avarice et des avaricieux.
Comment? Que dis-tu?
Ce que je dis?
Oui. Qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux?
Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux.
De qui veux-tu parler?
Des avaricieux.
Et qui sont-ils, ces avaricieux?
Des vilains et des ladres.
Mais qu'est-ce que tu entends par là?
De quoi vous mettez-vous en peine?
Je me mets en peine de ce qu'il faut.
Qu'est-ce que vous croyez que je veux parler de vous?
Je crois ce que je crois. Mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela.
Je parle à mon bonnet.
Eh bien, moi, je pourrais bien parler à ta barrette.
M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux?
Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent. Tais-toi!
Je ne nomme personne.
Je te rosserai si tu parles.
Qui se sent morveux qu'il se mouche?
Te tairas-tu?
Oui, malgré moi.
Ah!
Tenez, voilà encore une poche. Êtes-vous satisfait?
Allons, rends-le-moi sans te fouiller.
Quoi?
Ce que tu m'as pris.
Je ne vous ai rien pris du tout.
Assurément?
Assurément.
Adieu, va-t'en à tous les diables.
Me voilà fort bien congédié.
Je te le mets sur ta conscience au moins. Voilà un pandard de valet qui m'incommode fort. Et je ne me plais point à voir ce chien de boiteux-là.
Dans cette pièce, Molière illustre à quel point l'avarice rend solitaire et malheureux. Harpagon ne pense pas au bonheur de ses enfants. Sa seule obsession est l'argent. Il est amoureux de Marianne, mais il hésite à l'épouser en raison de sa pauvreté. Il trace le destin d'Élise et de Cléante en fonction des montants qu'il va pouvoir économiser ou recevoir. Harpagon se trouve constamment dans une situation où il ressent de la peur. Il craint en permanence de perdre sa fortune, d'être volé. Et lorsque cela arrive, il entre dans une fureur terrible. Finalement, il conservera ses biens, mais se retrouvera seul et triste. Voici, pour terminer notre émission, la célèbre scène 7 de l'acte 4 de L'Avare de Molière. La fameuse tirade de la cassette d'Harpagon. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier.
Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Ah, c'est moi! Mon esprit est troublé, j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. En effet, je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Hé ! Que dites-vous ? Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin on ait épié l'heure. Il en a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons. Je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute la maison, à servante, à valet, à fils, à fille. Et à moi aussi. Que de gens assemblés! Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. Et... de quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite! Des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gênes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après.
Merci Philippe, merci Françoise, merci Muriel, merci Michel, merci Pierre. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos émissions sur Molière. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. On ne meurt qu'une fois, et c'est pour si longtemps. Mascari, acte 5, scène 3, vers 1571 du Dépit amoureux. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com, et toutes les informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale, fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, téléphonez-moi au 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre de qualité, mise en scène, éclairée et sonorisée par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne. L'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir.